Guy de Maupassant, regret. Monsieur Saval, qu'on appelle dans Mantes le père Saval, vient de se lever. Il pleut. C'est un triste jour d'automne. Les feuilles tombent. Elles tombent lentement dans la pluie, comme une autre pluie plus épaisse et plus lente. Monsieur Saval n'est pas gai. Il va de sa cheminée à sa fenêtre et de sa fenêtre à sa cheminée. La vie a des jours sombres. Elle n'aura plus que des jours sombres pour lui maintenant, car il a 62 ans. Il est seul, vieux garçon, sans personne autour de lui. Comme c'est triste de mourir ainsi, tout seul, sans une affection dévouée. Il songe à son existence, si nue, si vide. Il se rappelle, dans l'ancien passé, dans le passé de son enfance, la maison avec les parents. Puis le collège, les sorties, le temps de son droit à Paris. Puis la maladie du père, sa mort. Il est revenu habiter avec sa mère. Ils ont vécu tous les deux, le jeune homme et la vieille femme, paisiblement, sans rien désirer de plus. Elle est morte aussi. Oh, que c'est triste, la vie. Il est resté seul. Et maintenant, il mourra bientôt à son tour. Il disparaîtra, lui, et ce sera fini. Il n'y aura plus de M. Paul Saval sur la terre. Quelle affreuse chose. D'autres gens vivront, s'aimeront, riront. Oui, on s'amusera, et il n'existera plus, lui. Est-ce étrange qu'on puisse rire, s'amuser, être joyeux sous cette éternelle certitude de la mort? Si elle était seulement probable, cette mort, on pourrait encore espérer. Mais non, elle est inévitable, aussi inévitable que la nuit après le jour. Si encore sa vie avait été remplie, s'il avait fait quelque chose, s'il avait eu des aventures, de grands plaisirs, des succès, des satisfactions de toutes sortes, mais non, rien. Il n'avait rien fait, jamais rien, que se lever, manger aux mêmes heures et se coucher. Il était arrivé comme cela à l'âge de 62 ans. Il n'était même pas marié, comme les autres hommes. Pourquoi, oui, pourquoi s'était-il pas marié? Il aurait pu, car il possédait quelque fortune. Est-ce l'occasion qui lui avait manqué? Peut-être. Mais on les fait naître, ces occasions. Il était nonchalant, voilà. La nonchalance avait été son grand mal, son défaut, son vice. Combien de gens ratent leur vie par nonchalance? Il est si difficile à certaines natures de se lever, de remuer, de faire des démarches, de parler, d'étudier des questions. Il n'avait même pas été aimé. Aucune femme n'avait dormi sur sa poitrine dans un complet abandon d'amour. Il ne connaissait pas les angoisses délicieuses de l'attente, le divin frisson de la main pressée, l'extase de la passion triomphante. Quel bonheur surhumain devait vous inonder le cœur quand les lèvres se rencontrent pour la première fois, quand l'étreinte de quatre bras fait d'un seul être un être souverainement heureux, de deux êtres affolés l'un par l'autre. Monsieur Saval s'était assis, les pieds au feu, en robe de chambre. Certes, sa vie était ratée, ou tout à fait ratée. Pourtant, il avait aimé, lui. Il avait aimé secrètement, douloureusement et nonchalamment, comme il faisait tout. Oui, il avait aimé sa vieille amie, Madame Sandre, la femme de son vieux camarade Sandre. Ah, s'il l'avait connue jeune fille! Mais il l'avait rencontrée trop tard, elle était déjà mariée. Certes, il l'aurait demandée, celle-là. Comme il l'avait aimée, pourtant, sans répit, depuis le premier jour. Il se rappelait son émotion, toutes les fois qu'il la revoyait, ses tristesses en la quittant. Les nuits où il ne pouvait pas s'endormir parce qu'il pensait à elle. Le matin, il se réveillait toujours un peu moins amoureux que le soir. Pourquoi? comme elle était jolie autrefois et mignonne, blonde, frisée, rieuse. Sand n'en était pas l'homme qu'il lui aurait fallu. Maintenant, elle avait 58 ans. Elle semblait heureuse. Ah, si elle l'avait aimé, celle-là, jadis, si elle l'avait aimé. Et pourquoi ne l'aurait-elle pas aimé, lui, Saval, puisqu'il l'aimait bien, elle, Madame Sandre? Si seulement elle avait deviné quelque chose. Mais n'avait-elle rien deviné, n'avait-elle rien vu, rien compris, jamais? Alors qu'aurait-elle pensé? Et s'il avait parlé, qu'aurait-elle répondu? Et Saval se demandait mille autres choses. Il revivait sa vie, cherchait à ressaisir une foule de détails. Il se rappelait des choses qu'elle lui avait dites, des intonations qu'elle avait autrefois, des petits sourires muets qui signifiaient tant de pensées. Il se rappelait leur promenade à trois le long de la Seine, leur déjeuner sur l'herbe le dimanche, car Sandre était employé à la sous-préfecture. Et soudain, le souvenir net lui revint d'un après-midi passé avec elle dans un petit bois le long de la rivière. Ils étaient partis le matin, emportant leurs provisions dans des paquets. C'était par une vive journée de printemps, une de ces journées qui grisent. Tout semble bon, tout semble heureux. Les oiseaux ont des cris plus gais et des coups d'ailes plus rapides. On avait mangé sur l'herbe, sous des saules, tout près de l'eau, engourdie par le soleil. L'air était tiède, plein d'odeurs de sève. On le buvait avec délices. Qu'il faisait bon ce jour-là! Après le déjeuner, Sandre s'était endormi sur le dos. « Le meilleur somme de sa vie !» disait-il en se réveillant. Madame Sandre avait pris le bras de Saval et ils étaient partis tous les deux le long de la rive. Elle s'appuyait sur lui. Elle riait, elle disait « Je suis grise, mon ami, tout à fait grise !» Il la regardait, frémissant jusqu'au cœur, se sentait pâlir, redoutant que ses yeux ne fussent trop hardis, qu'un tremblement de sa main ne révélât son secret. Elle s'était faite une couronne avec de grandes herbes et des lys d'eau et lui avait demandé « M'aimez-vous comme ça ?» Comme il ne répondait rien, car il n'avait rien trouvé à répondre, il serait plutôt tombé à genoux. Elle s'était mise à rire, d'un rire mécontent, en lui jetant par la figure « Gros bête, va, on parle au moins !» Oh, il avait failli pleurer, sans trouver encore un seul mot. Tout cela lui revenait maintenant, précis, comme au premier jour. Mais pourquoi lui avait-elle dit cela ? Gros bête, va, on parle au moins. Et il se rappela comme elle s'appuyait tendrement sur lui. En passant sous un arbre penché, il avait senti son oreille à elle contre sa joue à lui, et s'était reculé brusquement dans la crainte qu'elle ne crût volontaire ce contact. Quand il avait dit « Bon, ne serait-il pas temps de revenir ?» elle lui avait lancé un regard singulier. Certes, elle l'avait regardé d'une curieuse façon. Il n'y avait pas songé alors, et voilà qu'il s'en souvenait maintenant. « Bon, comme vous voudrez, mon ami, si vous êtes fatigué, retournons. » Et il avait répondu « Oh, je n'ai pas que je sois fatigué, mais Sandre est peut-être réveillée maintenant. » Et elle avait dit en haussant les épaules « Si vous croyez que mon mari soit réveillé, c'est autre chose, retournons. » En revenant, elle demeura silencieuse et elle ne s'appuyait plus sur son bras. Pourquoi ? Ce pourquoi-là, il ne se l'était point encore posé. Maintenant, il lui semblait apercevoir quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Mais est-ce que... M. Saval se sentit rougir et se leva bouleversé comme si de 30 ans plus jeune, il avait entendu Madame Sand lui dire « Je vous aime ». Mais est-ce possible ? Ce soupçon qui venait de lui entrer dans l'âme le torturait. Mais est-ce possible qu'il n'eût pas vu, pas deviné? Oh, si cela était vrai, s'il avait passé contre ce bonheur sans le saisir, il se dit, oh, je veux savoir, oh, je ne peux pas rester dans ce doute, je veux savoir. Et il s'habilla vite, se vêtant à la hâte, il pensait, j'ai 62 ans, elle en a 58, je peux bien lui demander cela. Et il sortit. La maison de Cendre se trouvait de l'autre côté de la rue, presque en face de la sienne. Il s'y rendit. La petite servante vint ouvrir au coup de marteau. Elle fut étonnée de le voir si tôt. Vous déjà, monsieur Saval, est-il arrivé quelque accident? Saval répondit, non, ma fille. Mais va dire à ta maîtresse que je voudrais lui parler tout de suite. C'est que madame fait sa provision de confiture de poire pour l'hiver, et elle est dans son fourneau et pas habillée, vous comprenez? Oui, mais dis-lui que c'est pour une chose très importante. La petite bonne s'en alla et Saval se mit à marcher dans le salon, un grand pas nerveux. Il ne se sentait pas embarrassé cependant. Bon, il allait lui demander cela comme il lui aurait demandé une recette de cuisine. C'est qu'il avait 62 ans. La porte s'ouvrit, elle parut. C'était maintenant une grosse femme, large et ronde, aux joues pleines, au rire sonore. Elle marchait, les mains loin du corps et les manches relevées sur ses bras nus, poissés de jus sucré. Et elle demanda, inquiète, qu'est-ce que vous avez, mon ami? Vous n'êtes pas malade? Il reprit, non, non, ma chère amie, mais je veux vous demander une chose qui a pour moi beaucoup d'importance et qui me torture le cœur. Me promettez-vous de me répondre franchement? Elle sourit, mais je suis toujours franche, dites. Bien voilà, je vous ai aimé du jour où je vous ai vu. Vous en étiez-vous douté? Elle répondit en riant, avec quelque chose de l'intonation d'autrefois. Oh, bête, va, mais je l'ai bien vu du premier jour. Saval se mit à trembler, il balbutia. Oh, vous le saviez alors? Et il se tut. Elle demanda, alors quoi? Il reprit, alors, mais que pensiez-vous? Que m'auriez-vous répondu? Elle rit plus fort. Des gouttes de sirop lui coulaient au bout des doigts et tombaient sur le parquet. Moi, mais vous ne m'avez rien demandé. C'était pas à moi de vous faire une déclaration. Alors il fit un pas vers elle. Non, dites-moi, dites-moi. Vous rappelez-vous ce jour où Cendre s'est endormie sur l'herbe après déjeuner? Nous avons été ensemble jusqu'au tournant là-bas. Il attendit. Elle avait cessé de rire et le regardait dans les yeux. Et certainement, je me rappelle, il reprit en frissonnant. Eh bien, ce jour-là, si j'avais été, enfin, si j'avais été entreprenant, qu'est-ce que vous auriez fait? Elle se mit à sourire en femme heureuse qui ne regrette rien, et elle répondit franchement, d'une voix claire, où pointait une ironie. J'aurais cédé, mon ami. Puis elle tourna ses talons et s'enfuit vers ses confitures. Saval ressortit dans la rue, atterré comme après un désastre. Il filait à grands pas sous la pluie, droit devant, lui, descendant vers la rivière, sans songer où il allait. Quand il arriva sur la berge, il tourna à droite et la suivit. Il marcha longtemps, comme poussé par un instinct. Ses vêtements ruisselaient d'eau, son chapeau déformé, mou comme une loque, dégouttait à la façon d'un toit. Il allait toujours, toujours devant lui, et il se trouva sur la place où ils avaient déjeuné au jour lointain dont le souvenir lui torturait le cœur. Alors il s'assit sous les arbres dénudés et il pleura.